Rebonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui 5 hacks pour doper ses écoutes. Vous allez voir, il y a beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, comme d'habitude, je me suis engagée avant de produire. Donc en fait, quand Grégory m'a dit « il faut un thème », j'ai dit 5, et en fait, au final, il y en avait 12. Donc voilà, on s'est arrangé comme on a pu. Pour me présenter brièvement, du coup, moi, c'est Caroline Mignot. Je vous ai raconté un petit peu tout à l'heure que moi, j'avais fait un peu mes armes aux États-Unis. J'ai passé 9 ans à New York à faire du marketing de croissance pour tout type d'industrie. J'ai bossé dans le luxe, j'ai bossé dans la restauration, j'ai bossé dans le transport routier et dans les bijoux. Et oui, bon, pas la même année, mais en 8 ans, il y a eu pas mal d'expériences diffuses. Et quand je suis rentrée en France, il a fallu... Je suis rentrée en France un peu à l'insu de mon plein gré. En gros, on m'a promis un job de rêve. J'ai signé ma promesse d'embauche. J'étais en pleine démarche de visa. Et puis tout d'un coup, les investisseurs ont changé d'avis. Donc, je me retrouve au bout de 8 ans et demi avec 500 kilos de bagages en France, toute seule. Et j'ai jamais travaillé en France. Et du coup, je me dis, il va falloir que je me construise un réseau. Et ça, en fait, que ce soit pour trouver un job ou pour lancer sa boîte, on a tous besoin d'un réseau. Donc, moi, je suis repartie à zéro. Et ma bonne façon de repartir à zéro, ça a été LinkedIn. Qui à l'époque, franchement, ça n'avait pas trop la hype. Il y a 2 ans et demi, LinkedIn, il n'y avait pas grand monde. Je crois qu'il y avait un pourcentage de 1% des personnes qui postaient versus les gens qui juste lisaient ou critiquaient sur LinkedIn. Donc, c'était pas la hype d'aujourd'hui. Mais en fait, ça m'a permis très vite de commencer à faire ce qu'on appelle maintenant la production de contenu. Moi, je ne connaissais pas du tout ça. Je venais d'un milieu très geek. J'avais jamais dû faire des story facecam, des selfies, faire de la promotion d'événements. Donc, découverte dans tous les sens du terme. Et après LinkedIn, du coup, qui m'a permis vraiment de lancer ma première boîte Richmaker, il y a eu Clubhouse. Et en fait, Clubhouse m'a fait arriver dans le podcast. Pourquoi ? Parce que vous avez compris, mon parcours maintenant, c'est un peu une succession de peaux de banane. En fait, il n'y avait rien qui était prévu d'avance. À chaque fois, j'ai glissé et j'ai atterri à un autre endroit. Et puis, j'ai rebondi et je suis allée ailleurs. Sur LinkedIn, il y a un mec qui dit « je file des places pour Clubhouse, le nouveau réseau social ». Et j'arrive sur Clubhouse et en fait j'étais tétanisée par la prise de parole en public. C'était un truc qu'on m'a demandé d'apprendre très vite et je trouvais ça horrible. Ma première table ronde, j'ai pas dormi pendant une semaine. Je suis arrivée, je faisais des techniques de méditation dans les toilettes, je suis restée une demi-heure. Enfin, c'était la catastrophe. Et au moment où Clubhouse se lance, je me dis ah, ça c'est trop bien parce qu'au moins il n'y a pas l'image. Donc on regarde pas comment t'es habillée, s'il y a quelqu'un qui est mieux maquillé que toi ou machin. En fait, c'est juste, tu peux être dans ton lit et commencer à t'entraîner et du coup tu peux le faire aussi un peu tout le temps. Sur Clubhouse, en fait, ça marche du feu de Dieu. Pas parce que je suis la meilleure, hein, je vous ai dit, je partais vraiment de loin. Mais en fait, j'ai tellement envie de craquer le truc que par contre, en fait, la courbe d'apprentissage a fait le boulot pour moi. Et à force de faire le plus en plus de room, d'inclure les gens, parce qu'encore une fois, c'est ça le secret sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement ce que vous dites, ce que vous diffusez. Si vous êtes dans cette relation-là, vous aurez une audience. Si vous partagez, si vous renvoyez la lumière aux autres, si dès que vous recevez un petit peu, vous redonnez fois 1000, là, vous créez une communauté. Et du coup, ça se passe sur Clubhouse et arrive le mois de juillet-août. Et le mois de juillet-août, tout le monde me dit « Clubhouse, c'est trop bien, Caro, mais là, t'arrêtes pendant 2 mois. Il n'y a pas le replay de tes rooms sur Clubhouse. » Et je me dis « Ah, faudrait peut-être que je fasse du podcast. » J'en faisais un peu, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, Clubhouse m'a amené sur le chemin du podcast. Et du coup, j'ai aussi une newsletter qui s'appelle LinkedIn Facile. Le truc, c'est que voilà, je ne suis pas consultante LinkedIn. Je suis comme tout le monde. Je suis entrepreneur et j'essaye de faire reacher mon LinkedIn, avoir de la visibilité, en même temps de l'autorité pour décrocher des partenariats, en même temps du lead et des clients. Du coup, je me casse les dents pour tout le monde et je documente ce que j'apprends. Et du coup, ça donne ma newsletter LinkedIn Facile. Et puis, il y a mon podcast Marketing Square, qui aujourd'hui comptabilise 60 000 écoutes par mois. C'est franchement ma fierté. C'est un peu le premier truc de ma vie que je fais qui marche. Donc, je suis hyper contente de le partager avec vous aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'ai eu ma lettre de Poudlard. Pour ceux qui étaient là à la conférence tout à l'heure, je parlais des lettres de Poudlard. En fait, aller chercher quelqu'un et pas juste inviter les gens qui sont invités par tout le monde. Aller chercher les petits talents. Et ben moi, il y a quelqu'un qui a fait ça avec moi. Et en fait, j'ai lancé mon podcast en septembre. Et en novembre, je reçois un mail de Apple Podcast qui me dit que je suis dans les coups de cœur de l'année. J'ai cru à un scam, j'ai cru qu'on allait me demander un virement sur Western Union à faire dans les 24 heures. Et en fait, j'ai regardé l'adresse email et c'était vraiment vrai. Après ça, ça a été très dur, j'ai dû garder le silence pendant 1 mois. Sachant que je suis la personne la plus pipelette de la Terre, ça a été dur. Mais aujourd'hui, ça a donné un vrai coup de boost aussi à mes écoutes. Et je suis obligée de vous le mentionner parce que dans la vie, il n'y a pas que des hacks, il y a aussi des choses, des gens qui vous tendent la main. Et j'ai eu quand même une bonne étoile. Ça, c'est ce dont Arthur vous parlait tout à l'heure. Ma casserole, ça me fait mal quand même. C'est la première fois que je le partage. C'est mon premier podcast, les rendez-vous du co-marketing. C'est une émission que j'ai faite qui a fait un four total, où en fait les gens ne venaient que pour me faire plaisir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de public, donc amis proches, famille ou des gens qui se sont perdus. Et du coup, les rendez-vous du co-marketing, je documentais les plus belles collabs. Donc un marché d'environ 0,01% des marketeurs. Et du coup, je parlais que de collaboration pour les fans de collab. Donc voilà, j'avais pas beaucoup d'écoute. Et là, on va faire un peu le jeu des pas 7, mais 8000 différences. Et du coup, en 2020, du coup, je lance les rendez-vous du co-marketing. J'extrais la bande-son de mes lives. Hein. Mentalité, grosse hack. On fait aussi beaucoup de hacks à la con qui ne marchent jamais. C'est la stratégie pour trouver des trucs qui marchent. Je me dis, je vais mettre la bande-son de mes lives LinkedIn sur Apple Podcast. Et grâce au génie du référencement naturel, on va me trouver. Et après, la magie va opérer. Donc voilà ce que ça a donné, 600 écoutes du coup en 8 mois. Et je vais vous documenter aujourd'hui les 5 principaux hacks, en tout cas les 5 leviers de croissance qui m'ont permis de faire un truc qui marche. Et ça, je voulais vous le montrer aujourd'hui. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que si leur podcast ne marche pas, c'est à cause d'elles. Et en fait, je trouve ça trop important de vous montrer ça parce que vous voyez que, en fait, c'est la même personne à 8 mois d'écart et vous êtes capable, en fait, de passer du simple au double. Donc, vous ne remettez pas en question. En fait, ce qui ne marche pas, c'est votre process, ce n'est pas votre personnalité, votre voix, parce qu'on trouve tous qu'on a une voix horrible ou des choses que vous dites qui ne sont pas intéressantes. Il faut juste craquer la bonne adéquation. Donc, quand un truc marche, ça marche très vite beaucoup. Je tiens à dire que ce que vous voyez en semaine 33, ce n'est pas le moment où j'ai débuté mon podcast. C'est mon ancien podcast. Voilà. Donc, on dirait qu'il n'y avait rien avant, mais il y avait des écoutes. Et donc, vous voyez à quel point, en fait, la vélocité et l'effet boule de neige, le network effect, il est immédiat. C'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à poster un épisode par jour, en fait, ça va très, très vite. Et aussi, pour vous décomplexer là-dessus, là, je vous partage une audience de 14 000%. C'est plus comme ça aujourd'hui. C'est normal que votre audience, elle se tasse avec le temps. Tout à l'heure, je vous disais, ma North Star, c'est mon augmentation moyenne. Il faut accepter que votre croissance, elle ne va pas rester tout le temps comme ça. Il y a un effet auto-entraînant, mais au bout d'un moment, vous remettez le même sac. Donc, c'est pour ça que c'est important de se renouveler aussi. Je ne suis pas la seule à partager mes casseroles. Ça, c'est un copain à moi. C'est pour ça que je peux me permettre de le balancer. Je l'ai prévenu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts de marques qui ressemblent à ça. C'est-à-dire une proposition de valeur qui est illisible, un visuel brouillon. Le nom de la marque dans le podcast, la question tout à l'heure, faut-il incarner son podcast ? Riverbed, c'est le nom de sa boîte. De l'intérieur, je ne sais pas qui ça peut intéresser de découvrir les coulisses de l'entreprise Riverbed. En tout cas, la proposition de valeur n'est pas là, le visuel est illisible. Et en plus, quand on ouvre le podcast, et ça, je vois aussi des bons podcasts qui le font, du texte récité. Donc, il n'y a pas d'énergie, il ne se passe rien, c'est un texte qui est lu. Et ça, honnêtement, à part les lectures d'articles, je vois qu'il y a de plus en plus de médias qui font des lectures d'articles. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler, j'observe ça. À part des lectures d'articles, si vous faites ça sur un podcast, moi, je pense que ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, voilà les 5 hacks. En tout cas, je vous ai dit les 5 leviers parce que je vais vous partager toutes mes bonnes pratiques et j'ai réussi à mettre tout ce que j'avais appris en 18 mois de podcast sur ces slides. Donc, levier numéro 1, l'identité. 2, éditorial. 3, diffusion. 4, communauté. Et après, un terme barbare, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Mais en fait, c'est la partie la plus intéressante. Le repurposing, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir transformer votre contenu. C'est-à-dire que tout à l'heure, on vous parlait de la Big Rock théorie en vous disant votre podcast, c'est le haut de la pyramide inversée et il faut l'éclater pour en faire plein de contenu. Mais vous pouvez aussi vous dire à l'horizontale, comment est-ce que je peux transformer un contenu comme mon podcast ? Et vous allez voir, il y a encore des opportunités, des choses qui sont inexplorées dans ce domaine. Ça va pas trop vite, ça va. Parce que comme tu m'as dit, j'avais prévu 45 minutes, Grégory m'a dit 20 minutes, donc j'ai dit 1,5 vitesse de temps de parole. Du coup, la première chose, c'est l'identité. On en parlait tout à l'heure. Moi, alors, franchement, ce podcast Guerre de Business, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Mettre, en fait, avoir cette technique opportuniste de mettre directement son sujet sur sa maquette de podcast. En fait, nous, on met les invités et même moi, je me dis, ah, j'ai pas craqué le truc. Quand je regarde ça, moi, je mets la tête de mes invités et en fait, eux, à chaque fois, ils mettent le sujet. Et là, on voit que l'identité de marque, elle est parfaite. Pas besoin de l'incarner, finalement, on n'a pas besoin de visage parce qu'on a un concept. Et je pense que c'est ça la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce qu'il faut incarner ou pas avec un humain ? Si vous avez un concept qui casse la baraque, Vous n'avez pas besoin d'un visage humain, mais il faut que vous ayez soit le bon speaker, soit le bon concept. Eux, ils ont le bon concept, donc je trouve que c'est un très, très bon exemple. Le physique, ça compte dans les podcasts aussi. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument que vous ayez l'ADN forte, un truc qui donne envie d'écouter. Arthur, je le rejoignais complètement quand il disait, en fait, la première expérience d'un podcast, elle est visuelle. On arrive sur Apple Podcasts, on arrive sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il faut trouver quand même un truc à guicheur. Une promesse claire, et je vais même vous dire, la promesse, en fait, ce n'est pas le titre de votre podcast. C'est qu'est-ce qui se passe à la fin de votre podcast. Et moi, je pense que dans la guerre, justement, de l'économie de l'attention, celui qui va gagner, c'est celui qui va réussir à chaque épisode à tenir sa régularité, mais surtout à tenir sa promesse. Je vous donne un exemple. Moi, du coup, Marketing Square, c'est les secrets du marketing. La promesse de mes épisodes, c'est qu'à la fin de chaque épisode, vous pouvez transformer une partie de votre business, c'est-à-dire que vous avez la méthode et les outils. Vous êtes prêt à passer à l'action. Ça, c'est ma promesse. Il y en a plein d'autres. Pour eux, ce serait au bout de la mini-série, vous savez tout de TikTok et Instagram et de leur histoire de marque, tout ça. Parce qu'on peut rendre une histoire de marque intéressante. Donc ça, ils l'ont craqué aussi. Et un visuel transparent. Bon, ça, évident. Des petites choses, les bonnes pratiques, le teaser ou le pilote de présentation. Et ça, je vois pas assez de gens qui le font. Si vous voulez justement vraiment incarner votre marque, commencez par expliquer pourquoi vous êtes là. Alors pour ceux d'entre vous qui sont indépendants, c'est un truc qu'on a vraiment du mal à faire. En fait, quand c'est nous, on est là, on se cache derrière nos invités. Faites un petit pilote qui explique pourquoi. J'étais avec une copine qui fait un podcast qui s'appelle L'Ascenseur émotionnel. Elle a réussi quand même. Elle fait ça pour avoir de la visibilité des clients. Elle a réussi à pas se présenter alors qu'elle est coach en gestion des émotions. Donc, elle doit non seulement être sur son pré-roll en début de chaque épisode, mais aussi faire tout un épisode complet de « pourquoi tu fais ça ?». Et en fait, dans le podcast, il ne faut pas se cacher derrière son invité. Les gens qui vous écoutent, au bout de 3-4 invités, ils vous aiment aussi. Donc, faites un pilote de présentation. Un autre truc que j'ai vu assez malin, c'est changer les pilotes pour faire des saisons. Et en fait, on parlait de Netflix tout à l'heure, c'est ça qu'ils ont craqué aussi, ils événementialisent. Alors, essayez, si vous faites des mini-séries, faites un pilote à chaque fois. Et si vous n'avez rien à mettre en pilote, c'est pas mal aussi, mettez votre épisode le plus écouté. Ça, je l'ai vu faire et je trouve que c'est un peu la stratégie web en général. On met le best-seller en premier, c'est un peu votre produit d'appel. Faites ça avec les pilotes. Si vous n'avez vraiment pas d'idée, mettez votre meilleur épisode. En tout cas, utilisez cet espace qui est sur les headers. Incarner avec un ambassadeur, en fait, quand vous êtes une marque, pour moi, le moment où vous allez vraiment réussir à créer une audience et même une communauté, mettez un speaker récurrent qui a un peu une patte, qui a un peu une tonalité. Et en fait, c'est lui aussi qui va diffuser les épisodes sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on ne fait pas qu'un podcast. Vous avez vu, la diffusion, c'est 30% du travail du podcasteur. Donc en fait, aujourd'hui, pensez à la partie sociale. Il faut quelqu'un qui raconte ce qui s'est passé dans l'épisode. Il faut quelqu'un qui soit sur les réseaux sociaux et pas juste une page entreprise. Sinon, ça ne va pas vraiment décoller en termes de diffusion. Et enfin, un jingle épique. Sachez que le jingle de Marketing Square, il y a des gens qui l'ont détourné. Il y a des gens qui me disent « je peux le réciter par cœur ». Et pourtant, quand j'ai fait mon jingle, je suis allée sur Fiverr et j'ai payé 35€ un mec pour lire Marketing Square. Et en fait, il m'a donné un truc inutilisable. Avec mes potes, on s'est trop marrés et on trouvait ça un peu décalé. En même temps, il y avait l'ADN un peu ricaine qui faisait partie de mon parcours. En fait, on l'a mis là. Je me suis dit, ça va être un tollé. Et en fait, les gens adorent parce que justement, c'est un jingle un peu décalé. Donc, n'ayez pas peur d'avoir un truc, même si c'est un peu à côté de la plaque. Testez-le parce qu'il y a plein de belles histoires qui commencent comme ça. L'éditorial. Alors, l'éditorial, ça va vous permettre d'attirer et de convertir. Ça compte aussi. Donc là, on a un titre fort avec une promesse. Le titre de votre épisode, ne mettez pas « interview de Jean Machin ». Non, mais vraiment, parce que je le vois encore plein de fois. Et en fait, c'est un réflexe. Hein. On n'est pas là pour se mettre des complexes. On a tous envie de faire ça. Comme à l'école, on met un titre. En fait, essayez de mettre le bénéfice. Je sais pas, Grégory, je sais pas si ça va éteindre le truc ou pas. Ah, c'est juste celle-là. Top. En fait, mettez vraiment le bénéfice, c'est-à-dire qu'est-ce que vous prouvez dans cet épisode ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, qu'est-ce qu'on a compris à la fin de l'épisode ? Et si vous avez du mal à le digérer, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une alternante en content management qui bosse avec moi sur Richmaker. Et en fait, souvent, je lui dis, qu'est-ce que tu as compris, toi, de l'épisode ? C'est quoi le moment fort ? C'est quoi le temps fort ? Donc, peut-être utiliser une oreille un peu bêta. Si vous avez trop le nez dedans, vous avez un biais, utilisez un auditeur test. Et lui, il va tout de suite vous dire, la phrase qui m'a marqué, c'est ça. Et je pense que ce que j'ai retenu, c'est ça. Le descriptif SEO, alors, je ne vais pas vous mentir, les mots-clés, sur les mots-clés, l'impact que ça a sur la découvrabilité de votre podcast sur les plateformes d'écoute, zéro. C'est juste, pour moi, la bonne pratique, c'est qu'en fait, je fais une description SEO de mon épisode et en fait, je mets ça sur les plateformes sociales. Et en fait, vous allez vous muscler en vous apprenant à mettre des mots-clés et à mettre des mots-clés différents dans votre contenu. Vous prenez un automatisme qui va vous servir tout le temps. Parce que par contre, la découvrabilité sur les réseaux sociaux, en fonction de ce dont parle votre épisode, elle est énorme. Donc, il y a une vraie opportunité. Donc, faites un descriptif où vous mettez des mots-clés et c'est ce descriptif-là que vous allez relayer après sur les différentes plateformes sociales. Un appel à l'action. Alors ça, franchement, on a trop du mal à prendre le réflexe et pourtant, les youtubeurs l'ont documenté, l'impact énorme entre la présence d'un appel à l'action ou pas. Et en fait, nous, on est toujours gênés de dire « Ah, j'ai pas envie de dire abonne-toi, j'ai l'impression de faire la manche quand je dis partager, envoyez-moi une review. » On est tout complexé, on a plein d'insécurité. Les Français, en fait, il faut y aller à fond les ballons parce que si tu demandes pas, t'as pas. Et ça, c'est toujours un truc qu'on m'a dit dans la vie. Attention, contre-exemple, pas trop de call to action. Et on a tous en tête quelqu'un qui nous met trop d'appels à l'action, qui dit bah, pas, si vous avez aimé l'épisode, partagez-le, envoyez-moi un message, et puis vous pouvez aussi vous inscrire, vous abonner à la newsletter. Voilà, essayez vraiment d'avoir un seul call to action clair. Mais s'il n'y a pas d'appel à l'action, je vous redonne l'exemple de ma copine, l'ascenseur émotionnel. Elle me dit, bah, pour l'instant, en fait, je n'ai pas décroché des nouveaux clients, je n'ai pas besoin de beaucoup gratter pour savoir pourquoi elle n'a pas décroché des nouveaux clients. Il n'y a pas un seul moment dans son podcast où elle parle de son business. Les gens, ils ne vont pas venir. C'est comme sur les vidéos, si vous ne leur montrez pas, abonne-toi ici avec le doigt. En fait, voilà, il faut les guider au maximum. Il n'y a rien d'instinctif. Le petit hack, c'est un communiqué de presse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc, en fait, oser dire, bah voilà, moi, je lance un podcast qui documente tel ou tel sujet. Ça va vous permettre aussi après bah, d'être invité éventuellement à des conférences, tout ça. Et du coup, en termes éditorial, regrouper en fait ces ingrédients magiques pour définir votre ligne éditoriale. Tu me posais la question du script. Si vous définissez ce truc-là, vous n'avez pas besoin de scripter vos épisodes, mais juste votre ligne édito, qu'elle soit claire. Et si vous pouvez en faire un petit communiqué de presse qui se trouve sur votre site ou que vous envoyez sur LinkedIn, ça ne mange pas de pain et ça vous permet de faire de la croissance en organique. En termes de diffusion, du coup, là, on va parler cross-promotion. Et on va parler aussi de... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle ce logiciel qui permet de faire ça? Repeak, un truc comme ça. Je vais vous trouver le nom pour ceux que ça intéresse. En fait, c'est un logiciel qui est gratuit, qui vous génère un open graph de tous les podcasts qui ont à peu près la même audience que vous, volumétrie et typologie. Et ça, c'est super intéressant et ça vous permet de trouver des collabs vraiment pertinentes. L'idée de la diffusion, c'est qu'il faut réussir à créer un rendez-vous. Et du coup, les différents tips que je vous donne, le lien de diffusion, les filles en ont parlé, le Smart Link, arrêtez de diffuser vos liens Spotify ou Apple Podcast. Les deux plateformes se tirent la bourre. Alors, il y a plus de gens qui écoutent en général sur Apple Podcast, mais si vous prenez le risque de mettre un clivage énorme si vous avez un lien qui mène juste vers une seule plateforme. Utilisez du coup un lien de diffusion mutualisé. Et si vous n'aimez pas les Smart Links, parce que par exemple, bah, c'est brandé, et c'est vrai que ça peut être un problème. Je vois même pour moi, avoir le lien Ocha comme ça, bah, du coup, si vous êtes une marque, ça peut être délicat. Faites une landing page. C'est tout bête, mais vous créez une landing page où il y a en fait toutes les plateformes d'écoute sur lesquelles vous êtes présent. Le contenu fragmenté, ça, en fait, ça me tient particulièrement à cœur. On le fait pas assez aujourd'hui. Il faudrait toute une conférence pour vous expliquer un peu ce qu'on a compris ou pas de l'algorithme Apple Podcast ou Deezer. Mais pour le coup, le contenu fragmenté, c'est pas encore assez fait. C'est le fait, il y a un truc qui est facile à comprendre que tout le monde sait, c'est que plus vous postez, mieux c'est. Plus vous allez créer un rendez-vous fort dans les oreilles de vos auditeurs, plus les algorithmes en fait, vont se dire « Ah bah super, ça c'est un bon client, ça c'est un bon client parce qu'il me rapporte plein de monde. » Le contenu fragmenté, ça veut dire que si par exemple aujourd'hui, vous faites un contenu de 45 minutes et que du coup vous me dites « Ah mais Caroline, comment tu veux que je fasse 3 épisodes par semaine ?» En fait, c'est possible. Il suffit d'appliquer encore une fois la Big Rock théorie. C'est-à-dire qu'un épisode de 45 minutes, c'est sûr que tu peux trouver un petit trailer pour donner envie aux gens d'écouter l'épisode. Bah, ça, c'est une minute. Pourquoi on ne communiquerait pas directement sur notre podcast pour donner rendez-vous aux gens dans un ou deux jours? Donc là, je vous ai déjà trouvé un contenu. Vous avez un teaser de une minute. Le taux de complétion, tout le monde est content parce qu'une minute, c'est très difficile de ne pas atteindre son objectif. Donc là, on continue à nourrir l'algo. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez mettre à la fin du coup de votre podcast, vous pouvez faire un récap. Typiquement, si moi, j'avais été obligée d'être sur du format long, de une heure, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais proposé le récap en 10 minutes. Pour les gens qui ont la flemme, on reprend et c'est moi qui reprends parce qu'on sait que les invités sont trop bavards et souvent c'est eux qui nous grèvent nos podcasts. Donc en fait, proposer, c'est vous qui lisez, c'est une phrase par action, 100% actionnable et vous faites un truc de, je sais pas, 10 minutes, ça peut même tenir en 5 minutes, mais proposer en fait un digéré de l'épisode à écouter. Vous pouvez aussi faire les moments best-of et reprendre vous-même les phrases de votre invité. Mais du coup, vous voyez comment à partir d'un seul contenu, vous pouvez déjà en faire plusieurs. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Ça va vous permettre de faire plus de reach et créer beaucoup plus l'événement qu'avec un épisode par semaine, voire par mois, où en fait, c'est difficile de rester actif dans la tête de vos audiences. La cross-promo, il y a différentes façons d'en faire. Je vais commencer par la plus facile, c'est la cross-promo invitée. En fait, vous invitez quelqu'un qui est aussi podcasteur et il parle de son podcast. Après, vous pouvez faire du pré-roll. Le pré-roll, c'est les 15-30 premières secondes en début de votre podcast. Donc, ça veut dire que, tout simplement, comme si la personne était sponsor, vous allez parler du podcast de quelqu'un d'autre à ce moment-là. Il y a un truc un peu plus tiré par les cheveux. Je ne l'ai pas vu beaucoup faire, mais à vos souhaits. Je ne l'ai pas vu beaucoup faire, mais je pense que ça, c'est pas mal. S'il y a des moments, par exemple, pendant les vacances où vous ne postez pas, là, typiquement, les podcasteurs, juillet, août, ils ont les podcasts business en sueur. Moi, juillet, août, je sais que ça va être difficile. Mais pour le coup, ce que vous pouvez faire, c'est proposer à vos auditeurs de découvrir le podcast de quelqu'un d'autre. En fait, vous mettez le podcast de quelqu'un d'autre sur votre podcast. Alors, ça paraît un peu dingue comme ça, mais vous avez compris que moi, je vais le tester parce qu'en général, c'est les trucs les plus dingues qui donnent des bons résultats. Et ça, pour le coup, ça vous permet de faire un vrai gros partenariat avec cette personne. Donc, en gros, pour résumer, c'est invité podcasteur, pré-roll, une petite annonce, une recommandation simple où vous conseillez à vos auditeurs d'écouter le podcast, ou alors carrément un podcast invité. Vous connaissez les articles invités, pourquoi pas les podcasts invités. Ensuite, la partie communauté. Ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous avais dit, mais je l'avais un peu mal expliqué, je crois, que du coup, la première ligne de chaque description de mes podcasts, c'est réagir en direct sur LinkedIn. Et ça aussi, quand je le dis à l'oral dans mon podcast, j'ai beaucoup plus de transformations. Mais franchement, parfois, j'y pense pas, donc je le fais pas toujours et c'est pas grave. Mais vous verrez la différence si vous faites aussi ce call to action, encore une fois, à l'oral. Parce que les gens qui vous écoutent, ils ont les mains prises, mais ils vous retiennent. Donc, précisez bien aux gens, si vous voulez réagir en direct, si vous avez des questions, go sur LinkedIn. Mais c'est pareil, si Clubhouse avait un petit peu plus marché dans le temps, moi j'aurais adoré dire, et on l'avait pensé dans notre strat de contenu, on fait l'after sur Clubhouse. Vous avez aimé le podcast, posez toutes vos questions à un tel ou un tel en direct sur Clubhouse. Donc vous voyez en fait ce lien-là, vous pouvez l'utiliser pour tout. En tout cas, faites pas l'erreur que je vois souvent de mettre votre call to action dans la description de l'épisode en bas de votre podcast, parce que ça, je vous le dis, j'ai mesuré avec des liens traqués. En haut, ça va, et encore, c'est pas dingue, on a du mal à faire cliquer les gens sur ces liens-là. Mais alors, si vous le mettez en bas, bon courage. Le petit hack, c'est de mettre des ressources que vous mentionnez dans l'épisode, et du coup, de mettre les ressources tout en bas, comme ça, vous êtes sûr qu'ils font défiler. Mais bon, ça, c'est un peu des techniques d'arracheur dedans. Mais voilà, pour vous dire, ça fonctionne de cette façon-là. Donc, offrir un espace d'échange et d'interaction, du coup, en direct, ça vous permet de faire de l'acquisition à un autre endroit. Hein. Je l'ai pas dit, mais c'est évident. Moi, du coup, Apple Podcast m'a permis de faire grandir mon LinkedIn, et mon LinkedIn m'a permis de faire grandir mon podcast. Faut créer des boucles comme ça. Et du coup, mettez en lumière vos auditeurs, ça, hyper important. Vous voulez des reviews sur Apple Podcast? Oui, vous pouvez demander aux gens, mais encore une fois, qu'est-ce que vous proposez en échange? Et en fait, à partir du moment où vous vous posez la question de moi, qu'est-ce que je peux faire pour les autres avant de penser à l'inverse, vous allez voir que tout va être beaucoup plus facile dans ce sens-là. Moi, ce que je fais, c'est que je mets en avant mes auditeurs et les gens, que ce soit des gens qui ont des thèmes sympas sur lesquels ils rebondissent. Par exemple, une personne qui va aller en commentaire sur ce post en disant « Ah bah moi, je pense que machin ». Trop cool. Tu penses qu'on peut en faire un épisode? Vas-y, viens dans le podcast. Boucle de croissance. Ou alors pareil, quelqu'un m'a laissé une review sur Apple Podcast, une review un peu dithyrambique, il s'est vraiment donné de la peine, je vais le citer dans l'épisode d'après. J'avais du mal à avoir des reviews et du coup, j'ai fait un concours Et j'ai dit, bah, ce mois-ci, je prends une review au pif et j'offre une heure de coaching à la personne qui sera tirée au sort. Il y a plein de dynamiques comme ça que vous pouvez mettre en place pour être sûr, en fait, que c'est pas un podcast moi-je, mais qu'en fait, les gens, ils vous encouragent pas juste parce que vous êtes génial, ils vous encouragent parce qu'ils savent que vous allez leur faire croquer un peu. Ça, c'est juste la base des relations humaines, en fait, que ce soit avec vos potes, vos auditeurs ou vos followers. Ensuite, remercier avec des activations régulières, bah, comme je vous disais, des jeux concours, mais aussi, bah, pourquoi pas, des exclus. Moi, typiquement, c'est ce que je fais sur LinkedIn. À chaque fois que j'ai genre une exclue de la part de l'équipe LinkedIn, bah, en fait, mes auditeurs, ils ont la primauté. Et donc, je le balance là avant nulle part ailleurs. Ensuite, le repurposing. Il y a un truc que je n'ai pas dit qui me semble hyper important. Je ne sais pas à quel moment. Ah oui, c'est là. C'est pour ça que je ne l'avais pas lu. C'était trop proche de moi. Entretenez la conversation via LinkedIn, email. On en parlait. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. J'ai dit du mal de l'email tout à l'heure, mais c'était juste pour vous dire, il n'y a pas que ça. Je crois beaucoup aussi au pouvoir de Discord, Slack, WhatsApp Business à fond. Et puis, j'ai vu quelques podcasts qui faisaient ça. J'adore la hotline. Posez votre question, c'est un numéro où tu appelles et tu poses ta question. Et je trouve ça hyper rigolo de faire passer tes auditeurs dans ton podcast. Je crois que c'est Pauline Léniaud qui le fait et Christelle Defoucault. Et je trouve que c'est hyper convivial, c'est hyper sympa. Moi, il y a un truc que je fais qui est un peu zarbi aussi, mais qui marche très bien. On l'a dit de nombreuses fois, il faut créer du contenu qui parle aux gens. Il ne faut pas créer du contenu pour se faire plaisir, sinon on est tout seul à l'écouter. Moi, ce que je fais souvent, c'est, oui, vous pouvez reprendre les questions récurrentes qu'on vous pose, regarder vos commentaires et sourcer là l'information. Mais une fois par mois, j'invite un auditeur à dîner avec moi. Ça peut tomber sur n'importe qui, mais je regarde dans les commentaires les trucs et je me dis, ah bah tiens, elle est hyper cool. Ça fait 5 fois qu'elle me met des commentaires comme ça. Elle m'a dit qu'elle m'a recommandé à 5 potes. Je l'invite à dîner. Et ça, en fait, on le dit tout le temps en marketing, les gens ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent, surtout si c'est des auditeurs qui vous adorent, peut-être qu'ils vous adorent vraiment, mais qu'il y a un épisode où vous avez vraiment merdé. Il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc que vous devriez faire. Et puis aussi, autour d'un petit verre de vin, les langues se délient et souvent, vos auditeurs, ils ont des meilleures idées que vous sur vos business. Et moi, il y a plein d'épisodes où en fait, c'est en écoutant des auditeurs parler qui me disaient « Ah, oh, ben, c'est un peu dingue, mais tu pourrais faire ça. » Ah bah c'est dingue, je le fais. Alors on y va. Et du coup, voilà, faire inviter un truc aussi bizarre que d'inviter en fait un auditeur comme ça à dîner et prendre ses retours pendant 3 heures, pas les 20 minutes, pas un questionnaire type form. Et pourtant, je fais du gros, donc je devrais vous dire oui, économiser du temps. Ça, c'est pas du temps qui doit être économisé et ça fait partie de la communauté. Si vous créez un effet waouh sur une personne, il y a quand même un effet long traîne dessus. C'est pas du temps perdu, au contraire. Le repurposing, ça, je trouve ça génial. Je sais qu'il y a plein de LinkedIn addicts dans la pièce. Donc, je vous le dis, c'est Estelle Ballot qui est une super podcasteuse. C'est un peu ma maman du podcast. Quand j'ai commencé, que j'étais toute seule et que personne ne voulait me parler chez les grands podcasteurs, ben Estelle, elle m'a dit, bah, c'est cool ce que tu fais. Il n'y a pas de raison. C'est une super nana. Je l'aime beaucoup et elle a fait ce truc très malin. Elle fait la strate des grands invités. Quand je vous dis, moi, j'ai la strate des petits invités, ça ne veut pas dire que les autres, ils sont vraiment trop débiles et centrés sur leur audience. Hein. C'est que moi, je suis partie à contre-courant. Et c'est un truc qui me correspond à moi. Estelle, elle fait très bien la stratégie du grand invité, le principe du lead magnet. Elle a une superstar, elle ponce en fait, c'est son épisode, c'est son, vous savez, l'épisode pilote dont je vous parlais, c'est son offre d'appel. En fait, elle a fait un podcast avec Grégoire Gambato à l'époque où c'était une superstar. Et du coup, à ce moment-là, elle envoie un message de prospection LinkedIn pour dire « Ah bah tiens, t'es sur LinkedIn, on a un truc en commun, tu kiffes LinkedIn, va écouter mon épisode de podcast et du coup, télécharger le petit e-book de Grégoire Gambato. » Ça, c'est hyper malin de faire ça, j'adore. Donc aujourd'hui, le repurposing, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous devez utiliser votre podcast comme levier d'acquisition aussi pour tous vos autres canaux. Typiquement, un podcast, ça peut devenir un e-book. Moi, mon podcast Marketing Square, je vais le faire éditer par Erol et on va en sortir un livre. Pourquoi? Encore une fois, je suis arrivée dans le podcast parce qu'on m'a dit on peut pas enregistrer tes rooms sur Clubhouse. Et ben là, je vais arriver dans l'édition parce qu'on m'a dit c'est trop bien ton podcast, mais en fait, on est obligé de prendre des notes. Et du coup, c'est chiant qu'il n'y ait pas une version écrite. Et voilà, donc je vais sortir un livre. Être invité à des conférences et des lives, ça sert à ça aussi, votre communiqué de presse. Typiquement, bah, ça, c'est à chaque fois que vous faites... Peut-être qu'ici, dans cette conférence, bah, j'ai gagné 3 auditeurs. Et en plus, j'ai gagné 3 auditeurs qui vont peut-être rester plus que les autres parce que du coup, ils m'ont vraiment rencontré. Donc, conférence, live, article de blog, évidemment. Ça, j'en ai pas assez parlé parce que le temps était limité. Mais aujourd'hui, faites un transcript de vos épisodes. Ça coûte rien. Enfin, en tout cas, pas grand chose. Et du coup, avoir des articles de blog optimisés SEO qui vont renvoyer les gens vers votre podcast, mais aussi faire grimper l'autorité de votre site et vous créer du contenu qui existe déjà. Bah, ça, en fait, c'est la base de la base. Et aujourd'hui, un rédacteur SEO, je pense que vous avez un petit carnet d'adresses peut-être chez Ocha, parce que je sais que vous bossez avec des gens très talentueux. Un rédacteur SEO, ça ne coûte pas très cher par rapport à tout ce que ça va vous ramener. N'oubliez pas, hein, ce n'est pas des posts LinkedIn, c'est des contenus qui restent dans le temps. Donc voilà, je pense que c'est tout. Mais ça, j'aime beaucoup ce hack. Pourquoi ? Parce que, et je finirai là-dessus, il y a beaucoup de commerciaux qui viennent me voir pour me dire oui, ma technique de prospection commerciale fait des flops, je n'arrive pas à vendre. Et en fait, ce truc-là est génial, c'est que si vous créez du contenu, vous devez aussi l'utiliser comme icebreaker, comme approche. Pour aller voir les gens, commencer par offrir, c'est encore une fois la base des relations humaines et c'est le truc qui marche le mieux en vente. Donc en fait, arrivez pas à voir votre prospect en disant « Hey, mais je me demandais comment tu manageais tes équipes, est-ce que tu aurais besoin d'un petit coup de main, prends rendez-vous dans mon calendrier ?» Peut-être que vous allez plutôt dire « Ah bah, j'ai vu que tu étais sensible de tel machin, on a fait un contenu sur le sujet, est-ce que ça t'intéresse ?» C'est une approche plus soft et en plus ça va vous permettre de distribuer votre contenu. Et comme ça, souvent c'est pour des automatisations, bah, en plus c'est à grande échelle, donc vous allez voir l'impact sur vos stats. Voilà, j'espère que j'ai tenu dans le temps imparti et si j'ai le temps, je prends avec plaisir vos questions.
L'applaudir.
Merci.
C'était bien 30 minutes, non ? Il y avait de l'énergie là, je crois que c'était pêchu. T'as tout donné.
Je vais dormir après.
Ouais, non, franchement,
je reviens pour le concert, mais je vais dormir après.
Yes. Oui, parce que ce soir il y a un concert, mais ceci est encore une autre histoire. Qui a une question ? Je suis sûr qu'on a des questions pour Caroline. C'est passionnant. Non, on lève la main, non. Bon, il y en a une.
Ils ont faim. Je t'entends, au top.
Ton prochain projet
faire
de podcast.
Faire un autre podcast. Bah, c'est un bébé de 8 mois, donc je me dis quand même, là, il me reste tout à découvrir. Il y a les rendez-vous du co-marketing, les gens sont là. Mais quand est-ce qu'il revient ce podcast ? Je l'attends. Ça
fait... On peut faire co-marketing square, sinon.
Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, je lance un podcast bientôt, collaboratif. J'ai pas le droit d'en parler. Ça sort en septembre. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Que j'ai mal fait et en fait qui peut vous servir à vous tous parce que si vous êtes là, c'est que potentiellement vous avez envie de lancer votre podcast. Le fait d'avoir, en fait, quand je connaissais très mal le podcast quand j'ai refait Marketing Square et du coup j'ai repris mon podcast d'avant, j'ai effacé tous mes épisodes et j'ai rebrandé par-dessus, ce qui s'appelle dans le jargon mettre du mascara sur un cocard. J'adore cette expression mais c'est un peu ça, je me suis dit, voilà. En fait j'aurais mieux fait de recréer un podcast à côté. Pourquoi ? Parce que les algorithmes, et notamment Apple Podcast, mais aussi Spotify, ils valorisent votre nouveauté. Et du coup, je serais arrivé beaucoup plus fort si j'avais eu, justement, si j'étais reparti de zéro, au lieu de reprendre un podcast qui avait 8 mois. Donc ça, j'ai oublié de vous le dire, mais si vous êtes là et que vous n'avez pas encore lancé votre podcast, vous avez déjà un avantage compétitif que nous, on n'a plus. Nous, on a cramé nos cartes, mais vous avez la chance d'avoir ça. Vous allez être mis en avant beaucoup plus que les autres. Et la section nouveautés sur Apple Podcast, elle se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc ça va vous permettre de ressortir dans vos catégories. Donc voilà, si vous avez fait comme moi un podcast raté, mettez pas du maquillage sur un cocard, repartez à zéro parce que c'est valorisé par les algos aujourd'hui.
Cool. Voilà. Bon, on peut l'appeler. Ah non, il y en a une. Il y a une dernière question.
Un petit peu tout ça. En fait, quand j'ai des exclus LinkedIn, ça part direct, même si c'est pas dans les bons jours. Hein, encore une fois, c'est aussi un petit peu en mode wannabe, mais c'est comme ça que je l'aime. Sur les épisodes qui marchent bien, j'en fais des mini-séries. Et là, en ce moment, il y a la mini-série, tout le monde était là. Mais comment fonctionne l'algorithme LinkedIn ? Et en fait, je fais tous les lundis, je crée un rendez-vous. Mais tu vois, ça, c'est tout nouveau. C'est un truc qui a 3 semaines. Donc, tous les lundis, on craque un truc de l'algorithme LinkedIn. Hier, c'était le content scoring, comment le contenu évalué. Avant, c'était le feed d'actualité. Comment expliquer ce qui vous voyez dans votre feed ? Ça évolue un petit peu comme ça tout le temps. Il n'y a pas de...
Pour arriver à sortir autant d'épisodes, sur la partie ingé son, traitement du son, tu le sous-traites ça, tu le files à quelqu'un ou
évidemment, c'est une équipe.
Ouais.
Une équipe.
ou c'est toi qui fais ça. Comment tu peux aller aussi vite avec ta vie d'entrepreneur, tout ça pour...
Moi, je suis pas perfectionniste, donc voilà pourquoi je vais vite. Je suis pas du tout perfectionniste, donc parfois vous allez avoir des dingueries. Peut-être je répète deux fois le même mot, machin, où il y a eu un truc, il y a eu un couac. Mais du coup, je fais pas du contenu parfait, et ça, je vis très bien avec. J'ai un monteur depuis 2 mois, depuis que j'ai un sponsor, j'ai un monteur qui bosse. Mais en fait, le problème, c'est que la promesse de mon podcast, c'est qu'il y a pas un mot inutile. Et du coup, quand c'est pas le métier de quelqu'un, j'ai un monteur excellent. Mais le problème, c'est que moi, je suis obligée de passer derrière. Donc aujourd'hui, non, je fais tout seule. Mais de toute façon, pour faire du podcast, il faut être un peu cramé à ça. Et moi, j'adore le montage. C'est un peu weird, mais j'adore ça. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise à l'oral, c'est un truc qui vous permet de vous améliorer. Vous allez avoir tous vos tics de langage. Et en fait, ça vous permet vraiment de comprendre en fait, aussi les moments où vous coupez la parole. Moi, j'ai découvert, je disais souvent non. Même quand j'étais d'accord, je disais non à la personne. J'étais, c'est trop chiant, okay, pourquoi je fais ça? Et en fait, ça va vous permettre vraiment de vous améliorer, de faire vous-même votre montage et d'être sur le terrain. Voilà, donc en fait, c'est une réponse hyper sincère. Aujourd'hui, je fais tout toute seule et je ne dors pas beaucoup. Mais tant que ça me plaît et tant que je m'y retrouve dans cette équation, je continue à le faire. Les idées de sujet, c'est toi, Marie, je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit, en fait, si tu penses à un thème, le seul critère, c'est est-ce qu'en 20 minutes, tu peux dérouler une méthode qui permet aux gens de transformer une partie de leur business? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, chez vous, on en avait parlé, comment créer une académie. Donc, pourquoi tu crées une académie de marque? Les 5 étapes, paf, on met les outils, emballer ses puzzles.
C'est ça.